Comme chaque mercredi, à 17h30, vous retrouvez le magazine USTL Info. Le magazine consacré à l'Université de Lille. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Martine Cassette, donc, qui est directrice de l'OFIP, l'Observatoire des formations et de l'insertion professionnelle. Bonjour Madame Cassette.
Bonjour.
Bienvenue à Radio Campus.
Merci.
Donc l'OFIP, c'est un organisme qui existe depuis combien de temps ?
C'est un service qui a été créé à Lille en 1990. C'est le premier observatoire d'université en France.
Et il correspondait à l'époque à un besoin particulier ?
Oui, alors c'est vrai qu'on parlait peut-être moins d'insertion professionnelle des diplômés que depuis quelques années, mais il y avait déjà des besoins pour connaître ce que devenaient les diplômés et puis pour suivre aussi les étudiants durant leur parcours de formation.
Mmh. Donc, cet organisme a été lancé à l'initiative de qui ?
Alors, en fait, c'est quelqu'un qui travaillait au sein du SUIO, le service d'orientation de Lille 1, qui s'appelle Francis Guggenheim, et qui a ressenti ses besoins d'information et qui a fait la proposition à l'équipe de direction de l'époque.
Mmh. Et à l'époque, c'était déjà tendance, j'allais dire de...
Non, pas du tout, parce qu'en fait, il y a encore 4-5 ans, on n'avait même pas la moitié des universités qui avaient un observatoire d'établissement. Alors ça s'est développé depuis 2-3 ans, essentiellement pour des raisons d'indicateurs statistiques et de LOLF, qui est un terme un peu technique, mais en fait pour répondre à des besoins de chiffres pour le ministère. Alors qu'au départ, c'était pas du tout cette raison-là pour l'ILIN.
C'est intéressant d'avoir de l'avance.
Oui, c'est intéressant, surtout quand le service est supporté par les différentes équipes de direction, parce que ça permet de l'étoffer petit à petit. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'observatoires d'université, il y a une personne ressource, alors qu'à l'OFIP, nous sommes 5.
Donc chacun s'est réparti par rapport à ses missions, des axes différents ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans les 5 personnes, il y a 3 ingénieurs d'études qui vont effectivement assurer les études d'insertion ou les études de cursus. Pour la logistique de ces études, on a besoin d'une secrétaire, d'une technicienne de bureau, parce que enquêter 1200 masters professionnels sur 3 mois, ça demande aussi beaucoup d'aspects logistiques. Et puis moi-même qui suis à la direction de l'OFIP depuis maintenant quelques années.
Donc votre travail se fait à partir de Master 2 enfin, c'est...
Oh, c'est beaucoup plus lourd que
plus
ça,
lourd que
parce
ça.
Qu'en fait, les enquêtes d'insertion, on les fait à la fois sur les licences professionnelles, sur les masters professionnels, donc les anciens DESS, sur les doctorats, et on le fait tous les ans, parce que l'insertion professionnelle, c'est intéressant d'avoir des statistiques avec un pourcentage de part de salaire, de cadre ou de salaire, mais ce qui est important aussi pour voir la qualité, c'est de voir l'évolution sur du long terme. Donc en fait, à l'OFIP, on a maintenant une antériorité dans ces études, ce qui nous permet de voir s'il y a des évolutions avant le LMD, après le LMD, par exemple.
Et cela, c'est également comparé au niveau national des autres universités ?
Alors, nous, on ne le fait pas systématiquement parce qu'on ne peut pas avoir accès aux résultats des autres universités. Mais le ministère doit pouvoir faire des choses de ce type. Quand on essaye de se comparer ou tout au moins de se situer, je pense qu'il vaut mieux se préciser, d'essayer de situer les résultats d'un établissement dans un environnement national plutôt que de se comparer avec d'autres universités. Mmh. Parce que c'est toujours difficile de comparer, je vais prendre le cas de Lille 1, où on a en gros 60% de diplômés scientifiques et 40% d'économie, de gestion et de sciences humaines, avec une autre université qui sera composée différemment, où il n'y aura peut-être que des scientifiques ou que des sciences humaines. Donc se comparer entre établissements n'a pas forcément un intérêt pour nous. Par contre, essayer de se situer dans l'environnement national, soit avec les études du CEREC, soit avec quelques études de l'APEC, permet quand même de voir comment sont représentés nos diplômés.
Donc effectivement, comment ces diplômés traversent-ils le temps ?
Eh bien, nous, on les enquête, je vais dire. Alors, il y a deux façons de répondre. Hein. Comment ils traversent le temps dans leur évolution professionnelle ? Nous, on les enquête qu'une fois, puisque comme on fait toutes les promotions, c'est difficile de réenquêter une même promotion plus tard. Donc, on les enquête 2 ans après leur sortie de diplôme. Alors, vous allez me dire pourquoi 2 ans ? Bah, tout simplement parce que si je les enquête à 6 mois, ils sont parfois encore en processus d'insertion. L'insertion professionnelle, c'est pas autant T, je suis en emploi ou pas. C'est, à la suite de mes études, j'essaye d'accéder à un emploi que je considère comme satisfaisant par rapport à ma formation, par rapport à mes attentes. Et si on veut couvrir le maximum de diplômés au niveau d'université, il faut se donner un temps qui va de 18 mois à 24 mois après le diplôme. Donc on enquête toutes nos promotions 2 ans après. Maintenant, on pourrait dire comment ça évolue sur les années où l'OFIP a fait des enquêtes. Je dirais que les choses sont relativement positives pour nos diplômés. Alors, ce n'est pas le fait de passer d'un DESS à un master, parce que la logique à l'intérieur du diplôme reste la même. Il ne faut pas penser qu'il y a une révolution complète entre les diplômés qui sont sortis en 2004 et les diplômés qui sont sortis en 2005. Les API s'appellent un peu différemment dans les masters pro, par exemple, mais le contenu est quand même assez proche. Donc les évolutions sont plutôt dues soit à des modifications petit à petit du diplôme pour s'adapter davantage à des exigences du marché, soit aussi à la conjoncture économique. Il faut reconnaître que l'ensemble des diplômés d'une université ou d'un pays peut avoir le meilleur diplôme possible, ils peuvent à certains moments avoir plus de difficultés parce que le marché des jeunes diplômés est plus difficile, parce que la conjoncture économique est plus difficile. Et notamment si je prends les dernières promotions de DESS, on a vu très nettement que avant 2000, la situation était très facile pour les DESS qui étaient en insertion professionnelle. Sur les années des sortants 2000 à 2003, les choses avaient été plus complexes et quel que soit le DESS, donc c'était pas une formation en particulier, c'était toute discipline dans ce cas-là, et les choses se sont nettement améliorées à partir de la promotion 2003 et elle continue puisque si je vous donne les résultats de la promotion 2005, donc la dernière qui a été enquêtée en octobre 2007, le taux de chômage est de 6%, c'est-à-dire nettement en dessous de tout ce qu'on nous donne comme chiffre habituel au niveau national ou au niveau régional.
Alors, on parle quand même beaucoup de précarité actuellement. Est-ce que la précarité existe dans vos statistiques, notamment est-ce que vous prenez en compte l'emploi partiel ou des formes d'emploi qui ne sont pas réellement fixes ou qui sont quand même précaires ?
Bien sûr. Alors c'est vrai que nos enquêtes donnent un premier aperçu qui sont des statistiques, mais la qualité d'une enquête, c'est quand même l'aspect qualitatif. C'est-à-dire que à côté de statistiques par regroupement ou par diplôme, on rédige ce qu'on appelle des répertoires d'emploi. Le répertoire d'emploi, c'est une mine d'informations, pas seulement pour la direction de l'université, mais pour les étudiants, dès lors qu'ils l'ont découvert. C'est-à-dire qu'on va, pour chaque diplôme, dire si l'emploi est en CDI ou en CDD, l'intitulé précis, parce qu'un intitulé qui serait simplement ingénieur d'études, ça peut être beaucoup de choses, mais ça ne renseigne pas sur ce qu'on y fait réellement. On précise aussi le secteur d'activité, parce qu'il va influencer généralement aussi sur le salaire. On précise sur le lieu d'activité. En région parisienne, les salaires sont plus élevés, mais le coût de la vie est plus élevé aussi. Donc il ne faut pas non plus se fier au salaire. Et dernière information, on donne effectivement le salaire net que le diplômé obtient, donc 2 ans après. Donc ça permet, avec ces répertoires d'emploi, et on le fait aussi dans nos statistiques, de montrer la part d'emploi stable, la part d'emploi qui sont plutôt des CDD, mais on peut aussi aller plus fin et voir s'il y a des intérims. Alors ceci dit, sur nos diplômés Bac plus 5, au niveau des masters professionnels, on a quand même une grande qualité de l'insertion professionnelle avant et après le LMD. On est vraiment sur des diplômes et des disciplines qui ne posent pas réellement de problème en termes d'insertion. Alors quand je dis qu'ils ne posent pas de problème, ça ne veut pas dire que 100% sont en emploi stable à 2 ans, parce que là aussi, les secteurs sont différents. Il est parfois difficile de comparer l'insertion professionnelle d'un diplômé qui a fait un master professionnel d'informatique, c'est-à-dire des diplômés qui vont plutôt dans le privé, où les salaires sont nettement plus élevés immédiatement, avec un diplômé qui aurait fait, par exemple, un master de sociologie ou de sciences de l'éducation, où on est plus dans le secteur public ou associatif. La part de cadre dans les associations, elle est forcément ridicule, hein, et les salaires sont pas non plus les mêmes que dans le secteur privé. Donc c'est vrai que c'est toujours très difficile de les comparer de façon brute. Il faut aussi montrer que l'insertion n'est pas au même endroit et pas dans les mêmes types de métiers. Mais quand on les regarde par regroupement disciplinaire, on voit bien effectivement que nos diplômés ont une insertion de tout à fait bonne qualité.
Est-ce qu'il y a une corrélation entre la difficulté de trouver des personnes, faire former à l'issue d'une d'un cursus universitaire et le salaire qu'on leur propose?
Ah, je dirais que c'est possible dans certains cas, mais quand on parle de salaire, c'est pas forcément la variable première des diplômés de l'université. Mm-hmm. Je pense que nos diplômés ont des comportements différents de ceux qui sortent d'une école de commerce, d'une école d'ingénieur, où effectivement l'insertion est rapide parce qu'il y a des réseaux anciens qui existent. Et donc peut-être que en 6 mois ou en 1 an, la part d'emploi stable est tout de suite très élevée. Les nôtres font des recherches un peu différentes. Ils essayent, je pense, davantage d'avoir une adéquation entre la formation et l'emploi. Et le salaire est peut-être un plus, mais ça n'est sûrement pas la variable première qu'ils vont essayer de trouver. De toute façon, ce qu'il faut voir aussi, c'est que nos enquêtes, systématiquement, si elles se font 2 ans après le diplôme, demandent toujours quel a été le premier emploi du diplômé. Parce qu'on voit de toute façon qu'il y a une évolution. Je vous disais tout à l'heure que l'insertion professionnelle, c'est un processus. C'est pour cela que dans les études, on montre justement de combien les variables ont été améliorées entre le premier emploi, qu'il soit à 3 mois ou à 6 mois, et celui à 2 ans. Et pour préciser un tout petit peu cette insertion des masters professionnels, le temps de recherche du premier emploi, il est quand même inférieur à 3 mois. Si vous envisagez que finalement un diplômé a souvent terminé en juin son diplôme, est-ce que véritablement il commence à chercher en juillet ou est-ce qu'il commence en septembre? On voit bien que le temps de recherche est relativement court.
Est-ce que la réussite du stage ou le choix du stage a une influence sur l'entrée dans la vie pratique?
Je pense que oui. Alors, je vais prendre les choses dans l'autre sens. Quand on interroge nos diplômés et qu'on leur demande comment ils ont trouvé le premier emploi, pour un tiers, c'est par le stage, c'est la poursuite du stage ou c'est le réseau qui est né à partir du stage. Parce que c'est pas forcément dans l'entreprise où ils avaient leur stage, mais c'est qu'ils ont permis d'avoir des contacts avec des entreprises proches ou des services proches qui leur a donné l'occasion de se présenter et d'avoir un emploi. Alors, je pense aussi que c'est un peu pour ça que je voudrais faire comprendre aux étudiants qu'ils ont besoin, qu'ils ont intérêt à aller voir ces répertoires d'emploi, parce que trouver un stage relativement pointu quand on est en master professionnel, hein, un bac plus 5, un étudiant qui a déjà fait beaucoup de stages sait comment s'y prendre pour trouver un stage d'un bon contenu qui correspond à sa formation. Quelqu'un qui n'en a pas encore fait beaucoup a plus de difficultés à négocier son stage avec l'entreprise. Parce que généralement, il ne sait pas bien comment il peut mettre en avant ses compétences. Il connaît des matières, il connaît des disciplines, il connaît moins les compétences. Et donc, les répertoires d'emploi où justement on définit les intitulés d'emploi qui pourraient être son emploi après sa sortie de diplôme est aussi un moyen de préparer une recherche de stage et d'avoir un stage dans de bonnes conditions. C'est pour ça qu'on a développé à la fois un site de l'OFIP qui permet d'avoir toutes les études et tous les répertoires d'emploi en direct, mais aussi il y a un présentoir au niveau du SUIO, puisque c'est là où ils sont censés s'informer à la fois sur leur parcours et sur leur insertion. Il y a un présentoir où il y a absolument tous les répertoires d'emploi en libre accès. Et ceux-ci ne sont pas globalisés par discipline, mais vraiment diplôme par diplôme. Donc l'étudiant qui a envie de passer un peu de temps avant de rechercher son stage, il peut s'intéresser au répertoire d'emploi, c'est une mine d'informations.
Alors, on m'a signalé des cas où dans des entreprises, des étudiants en stage faisaient davantage d'heures qu'ils ne pensaient le faire, et notamment l'histoire des 35 heures, c'est bien sur le papier, mais dans la pratique, on peut faire 1 heure ou 2 heures de plus parfois pour terminer un travail, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, alors, ça nous arrive aussi, non?
Ça nous arrive, mais bon, dans le monde de l'entreprise, il y a une législation. Donc, visiblement, elle n'est pas respectée dans beaucoup d'endroits. Par rapport à ça, quand un stagiaire vit cette situation, est-ce qu'il doit l'accepter ou est-ce qu'il doit la critiquer ou est-ce qu'il doit en faire part à son formateur, à son...
Moi, je pense que ça dépend beaucoup des relations qu'il a nouées avec le service dans lequel il est intégré. C'est-à-dire que si véritablement c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire chacun joue le jeu, bien sûr, l'entreprise apporte quelque chose au stagiaire puisqu'il a besoin de ce stage pour valider sa formation et en même temps pour mettre en pratique des compétences. Mais d'un autre côté, le stagiaire va jouer le jeu par rapport à une entreprise qui a des besoins. Donc si les relations se font avec du donnant-donnant, le fait de dépasser à un moment donné un horaire doit pouvoir être accepté dès lors qu'en contrepartie, il y aura forcément aussi une écoute attentive de l'entreprise, par exemple, quand le stagiaire se posera des questions sur son rapport, sur comment il doit envisager ensuite son insertion professionnelle. Je pense qu'il ne faut pas non plus avoir une vision très stricte, en tout cas pas inculquer d'office à nos étudiants une vision très stricte des 35 heures. La souplesse, elle doit exister. Maintenant, bien évidemment, il ne s'agit pas non plus d'abuser de cette main-d'œuvre parfois sur du long terme, parce que c'est quand même le problème qu'on peut rencontrer dans certains cas. Et si depuis quelque temps on parle beaucoup de légiférer sur le stage et sur une convention beaucoup plus précise du stagiaire, c'est justement parce qu'il y a eu des abus. On a bien vu les manifestations qui avaient eu lieu ces dernières années. Sur l'ILIN, les conventions de stage existent aussi depuis très longtemps. Alors c'est pas l'OFIP qui les gère, c'est le responsable du SUIO qui s'en occupe. Et tout ce qui est réglementation du travail apparaît en toutes lettres sur la convention de stage, qui est signée à la fois par l'étudiant, l'entreprise, le responsable pédagogique, avant que l'établissement ne signe. Pourquoi je souligne le responsable pédagogique ? Parce qu'après tout, c'est lui qui va quand même entériner le contenu du stage. Donc c'est lui qui peut, si jamais le stage paraît un peu trop éloigné du niveau des compétences ou du type d'études qu'il voudrait voir réaliser à l'étudiant, c'est lui qui peut dire à l'étudiant « renégocier ou changer d'entreprise ». Donc, bien sûr, il y a toujours des risques de dérapage. Ce qu'il faut aussi, c'est que l'étudiant, peut-être, à un moment donné, pense à en parler à son tuteur de stage. Alors, tuteur soit en entreprise, soit à l'université.
Autre cas de figure, un étudiant qui prépare, disons, pour dans 2 ans, un master, mais qui est en licence, est en stage dans une entreprise. On lui dit, ce serait bien que tu travailles, tu fais du bon travail, travaille pour nous, arrête tes études. Alors, qu'est-ce qu'on dit là ?
Qu'est-ce qu'on doit lui répondre ? Je vais dire pourquoi pas, puisque vous savez que la formation tout au long de la vie, ça existe. Ça existe de façon générale en France, mais ça existe surtout dans cette université, puisque la formation continue a toujours été très développée à l'ILIN. Et après tout, choisir un master sans trop savoir ce qu'on va faire, et puis peut-être le regretter après, si véritablement il a une opportunité de travail intéressante, bien évidemment, il pourra toujours reprendre ses études là où il les a arrêtées, puisque tout niveau validé est validé à vie. Il peut très bien s'arrêter après sa licence ou sa licence professionnelle et revenir dans un choix de diplôme qui ne serait peut-être pas celui qu'il avait fait s'il avait continué d'office après sa licence. Donc c'est un vrai choix à la fois d'études et de vie personnelle, puisque c'est vrai que les études demandent aussi des sacrifices parfois personnels sur le temps de loisir, sur la vie familiale. Donc c'est un choix qu'il faut prendre en compte de façon globale et pas simplement de dire j'arrête parce que j'ai trouvé quelque chose.
C'est un choix qui peut être aussi un pari parfois.
Bien sûr, tout à fait.
Donc par exemple parier sur le fait que cette entreprise qui a besoin de vous, finalement dans 2 ans, elle aura peut-être encore besoin de vous.
Peut-être, oui. Mais peut-être que justement, dans le cadre de cette entreprise, elle acceptera que vous fassiez un congé individuel de formation pour justement reprendre vos études avec un financement spécifique.
Ça se négocie avant, ça ?
Ça existe quand même depuis très longtemps. Alors, je ne suis pas la spécialiste de la formation continue sur cette université, vous devez le savoir, mais j'ai l'occasion de voir des dossiers d'étudiants en formation continue et il y a très longtemps qu'on voit ce genre de situation. Et généralement, ce sont des gens qui reviennent avec un objectif très précis sur le plan professionnel et qui ont juste quelques hésitations sur le meilleur parcours adapté par rapport à leur profil, à leur parcours professionnel et qui ensuite réussissent souvent dans de très bonnes conditions.
Alors, autre cas de figure, un étudiant étranger qui trouve éventuellement un travail et qui, en échange de ce travail, perd son statut d'étudiant et donc son droit à visa automatique et qui doit repasser par la case Sarkozy.
Oui, ça c'est vrai qu'actuellement, ce sont des conditions très difficiles. Alors c'est vrai que dans cette université, on a quand même un pourcentage d'étudiants étrangers important, puisqu'on est à peu près à 20% aujourd'hui, ce qui est plus que la moyenne nationale des universités, avec des origines d'étudiants très différenciées. La difficulté aujourd'hui pour ces étudiants, quand ils veulent faire des études, c'est de trouver un emploi. C'est-à-dire que ce sont des étudiants qui viennent avec beaucoup de difficultés financières, et par rapport aux étudiants français qui ont aussi des difficultés financières, les étudiants étrangers ont déjà beaucoup de difficultés à trouver des petits jobs en tant qu'étudiants. Donc ensuite, trouver un emploi à temps plein, je vais dire, en tant que salarié, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour eux parce que ça change les conditions d'accueil et d'existence sur le territoire.
Est-ce que vous avez une étude qui met en évidence des phénomènes de discrimination à l'embauche de gens formés au même niveau, par exemple des décalages?
Non, ça nous n'avons pas fait. Alors, pour différentes raisons. La première raison, c'est qu'on est observatoire d'établissement de l'insertion professionnelle. On n'est pas centre d'études sociologique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on mélange les métiers. Bien sûr, on a des sociologues dans nos ingénieurs d'études qui font les enquêtes, mais on n'est pas là pour produire des belles thèses sur la discrimination à l'embauche, etc. C'est-à-dire que si on faisait ça, la direction de l'ILIN pourrait très bien dire « non, ça ne correspond pas à mes besoins ». Donc bien sûr, on ne va pas vers cette dérive-là, même si on sent que parfois ce serait intéressant. Et puis pour une autre raison, c'est que les observatoires qui font ce genre d'enquête sont soumis à la CNIL et qu'il y a un certain nombre de variables qui ont été déposées pour nos enquêtes à la CNIL et d'autres qui ne l'ont pas. Donc on ne peut pas commencer à faire ce genre de choses comme ça d'affilée.
On casse le thermomètre, après on peut dire que tout va bien.
Oui.
Quand on arrive à cette période de fin d'année, mai, juin, c'est une angoisse pour des étudiants, vous rencontrez ça ?
Je pense que ceux qui sont en fin de parcours s'angoissent alors à des périodes différentes. Vous avez le cas de l'angoissé qui va commencer à chercher son intégration dès la fin de son, enfin dès la dernière année dans le cadre du master professionnel, qui va peut-être le faire en parallèle avec son stage. Et puis vous avez celui qui aime bien de faire les choses par séquence et donc il va finir son stage, il va le soutenir et puis il va se dire maintenant je dois rechercher un emploi. Et donc forcément dans la durée moyenne de recherche du premier emploi, je vous disais tout à l'heure qui était de moins de 3 mois, on peut avoir des cas de figure très différents. Puis c'est vrai aussi que vous avez des diplômes qui se terminent un tout petit peu à des périodes différentes. On dit souvent l'année universitaire c'est juin, sauf que pour des masters professionnels où le stage est long, c'est-à-dire 6 mois, où il faut le soutenir, il peut arriver que certains se terminent en septembre. C'est même plus à ce niveau-là que ça se situe pour les masters pro.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est encore le cas, que les étudiants aient une conscience de la vie et de leurs conditions de vie en tant qu'étudiants plus positive que celle du travailleur salarié ou non dans le monde professionnel, dans le monde habituel?
Vous voulez dire, est-ce que les étudiants se sentent encore avec l'insouciance des étudiants d'avant?
Tout à fait.
Je crains que non. Je crains que non, parce que déjà, on a un certain nombre d'étudiants qui sont obligés de travailler pour financer une partie de leurs études. On voit bien aussi qu'on a un pourcentage d'étudiants boursiers non négligeable sur cette université. Hein, c'est à peu près 30%. Donc tout ça fait des conditions un peu difficiles. Alors ensuite, bon, l'insouciance, ça se décrète pas. De toute façon, c'est aussi une mentalité, une psychologie. Il peut y avoir des conditions familiales qui peuvent jouer aussi. Mais c'est vrai que l'étudiant qui ne pensait qu'aux soirées qui avaient lieu toutes les semaines à la même date, je ne suis pas sûre que ce soit encore le cas aujourd'hui de façon majoritaire, même si ça existe à certains endroits. En même temps, j'ai l'impression que la vie collective étudiante est plus difficile qu'auparavant. On a l'impression quand ils sortent de cours qu'ils s'éparpillent chacun dans leurs endroits respectifs, familiaux ou bien logements étudiants, et qu'il y a peut-être moins de vie sur le campus. Alors peut-être qu'avec la maison des étudiants ça va rétablir peut-être les choses, mais l'insouciance étudiante, oui, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais évoqué en premier comme caractéristique aujourd'hui des étudiants de l'ILIN.
Plus l'individualisme alors?
Oui, là je suis d'accord. Oui, c'est vrai que il y a des formations où ils ont l'occasion de devoir travailler en collectif. Il y a des projets. C'est vrai que je reviens sur les masters. Il y a pas mal de formations où justement ils ont à mener un projet de long terme à plusieurs, avec toutes les difficultés que ça comporte. Hein, parce que savoir travailler à plusieurs, c'est pas forcément facile quand on a jusqu'à présent fait des cours, des travaux dirigés dans lesquels on préparait ses exercices tout seul. Et d'un seul coup, il y a un but à atteindre. Et pour ce but, il faut qu'on soit 4 ou 5. Et les 4 ou 5 avancent à des rythmes différents, avec des logiques différentes, avec parfois des gens qui jouent pas le jeu, comme partout dans la vie professionnelle aussi. Donc ils ont des projets à mener, mais c'est pas forcément le cas partout. Et en tout cas, c'est plus dans des niveaux master que des niveaux licence, où là, effectivement, on les voit aller en cours, en TD ou en TP, et puis ressortir pour aller au Resto U ou pour rentrer chez eux. Donc l'individualisme, il existe, oui.
Qu'est-ce qui est le plus important, apprendre à travailler en collectif dans une entreprise ou travailler en réseau inter-entreprise?
Oh, je dirais les deux, parce que apprendre à travailler en collectif dans une entreprise, vous serez amené dans toute situation de travail à être en collectif, obligatoirement. Il est très rare de voir quelqu'un qui travaille seul dans son coin, dans une pièce fermée, qui n'a besoin de personne en termes d'informations. Mais les réseaux, on voit bien aussi que depuis quelques années, c'est ce qui se développe, c'est ce qui fait la qualité de l'information, parce qu'après tout, prenez le cas d'un chargé d'études en économie, c'est aussi quelqu'un qui doit pouvoir mobiliser rapidement des sources d'informations qu'il n'a pas dans son bureau, parce qu'elles sont multiples, parce qu'elles sont disséminées. Et ce qui fera la richesse de son analyse, c'est justement parce qu'il aura su à un moment donné mobiliser des réseaux pour avoir l'information la plus pertinente, la plus récente et celle qui colle le mieux à ses besoins. Donc je dirais que les deux sont importants. Maintenant, chacun après va faire des choix en termes de mode de fonctionnement dans son travail.
Les réseaux qui partent de l'Université de Lille, on les retrouve jusqu'où? Parce que j'ai eu l'expérience, par exemple, suite à... Là, il y a eu un événement en Chine, qui est une catastrophe par rapport à ce tremblement de terre, à ce séisme. Et j'ai contacté l'UFE de Pékin. Et j'ai eu un message d'un des responsables qui me dit qu'il était étudiant à Lille 1 en 82. Et donc, il me remercie d'avoir pensé à eux.
Les réseaux existent. Le problème, c'est que là où je suis, au niveau de l'OFIP, c'est pas moi qui peux les percevoir. Parce que, comme je vous le disais, on fait des études d'insertion qui permettent de faire un répertoire d'emploi autanté, c'est-à-dire 24 mois après la sortie du diplôme. Par contre, je suis persuadée que les responsables de formation et que des associations d'étudiants tiennent à jour des annuaires d'anciens qui, elles, sont vraiment des tremplins pour mettre en place des réseaux. Alors, avec des particularités différentes suivant les formations, suivant les disciplines, avec peut-être une ancienneté, là aussi, plus ou moins importante suivant les diplômes, mais je pense que ça doit exister, et peut-être que c'est davantage le service vie étudiant qui peut développer, qui peut donner cette information, puisqu'elle est censée recueillir l'ensemble des associations étudiantes de ce campus.
On peut conseiller que consacrer un peu de temps à la constitution d'un réseau, c'est pas forcément perdre son temps.
Ah non, c'est très riche d'enseignement. Et puis, les réseaux professionnels peuvent commencer dans les réseaux universitaires. Après tout, les étudiants qui sont ici peuvent être amenés à un moment donné à se retrouver sur des aspects professionnels. Et après tout, il faut commencer au plus tôt. On voit bien qu'il y a beaucoup de modes de fonctionnement sur les réseaux. Donc, les commencer au plus vite, c'est très, très, très bien.
Ça suppose avoir un caractère, mettre en commun, échanger. Oui. Ça, c'est pas forcément inné. Ça s'apprend.
Oui, ça suppose effectivement de faire des efforts, souvent. Et puis, ce qui fait que la sauce prend, c'est quand même souvent parce qu'il y a un porteur de projet qui en veut plus que davantage. C'est rarement le collectif en tant que tel qui a l'idée de faire un réseau. C'est souvent parce qu'il y a une ou deux personnes qui en connaissent les intérêts et qui vont finalement dynamiser l'ensemble du groupe. Ce qui fait qu'on revient quand même à des personnalités, à des dynamiques qui sont à un moment donné peut-être individuelles ou semi-collectives pour entraîner les autres.
L'OFIP, donc l'Observatoire des formations et de l'insertion professionnelle, Madame Martine Cassette, a certainement un site internet.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est bien sûr un site qui dépend de l'Université de Lille 1, donc c'est www.univ-lille1.fr/OFIP en minuscule. Mais actuellement, vous pouvez même y accéder rapidement à partir de la page d'accueil du site de l'USTL, puisque dans le cadre de gauche qui est prévu pour les étudiants avec la carte des formations, il y a en dessous la ligne « L'insertion sur les diplômés » et on arrive directement au site de l'OFIP où là, vous aurez une facilité pour trouver un certain nombre d'informations puisqu'il y a un bouton « Insertion professionnelle » qui permet d'aller voir immédiatement les diplômes dont j'ai parlé tout à l'heure pour lesquels on fait des études et puis ceux qui sont intéressés par d'autres aspects, par exemple les conditions de vie aussi puisqu'on a fait des enquêtes sur les conditions financières, sur le logement, sur le campus, peuvent aussi trouver ça sur le bouton « Autres études ».
Alors pour conclure, Madame Cassette, si vous aviez un vœu à faire...
Un vœu à faire. Moi, je dirais que l'OFIP est au service des étudiants, tout autant que la direction de l'université. Et ce qui m'inquiète quand même, c'est quand je parcours les couloirs des bâtiments, puisque je suis aussi enseignante, de voir le peu d'étudiants qui connaissent le service en tant que tel et donc qui s'approprient les résultats qui ont été faits pour eux. D'où cette idée d'aller voir le site et d'aller au SUIO, parce que les conseillers du SUIO sont aussi capables de leur parler de nos enquêtes d'insertion.
Alors, pour info, peut-être pour un étudiant qui ne connaîtrait pas, se situe où exactement le SUAIO ?
Alors, le SUAIO, c'est dans le bâtiment SUP-SUAIO, qui est juste en face d'Ascotel. C'est l'ancien bâtiment qui s'appelait DUG-SUAIO quand on n'était pas dans le LMD.
Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.
Au revoir.